radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Nous sommes dans le massif des Vosges, entre l'Alsace et la Lorraine, et plus précisément à Gérardmer. Gérardmer est connu pour son lac et son festival du film fantastique. On dit aussi qu'on a dans le coin les stations de ski les moins chères de France. Mais moi, je vais vous proposer une balade nature à vélo. Et à la fin de cet épisode, vous saurez ce que sont les brimbelles dont les gens d'ici font leur délice. Je m'appelle Jérôme Prodhomme, je suis animateur à Ici Sud-Lorraine. Il ne se passe pas une année sans que je vienne me promener par ici. D'abord parce que j'aime les bons petits plats, et je suis servi, et bien servi. Ensuite, on a ici toutes sortes d'activités de loisirs. Moi, mon truc, c'est la marche et le vélo. Je viens spécialement à Gérardmer, seul ou en famille, parce qu'en pédalant, on profite de superbes paysages et aussi du bon air. Bienvenue dans Partir, Gérardmer et les Hauts-de-Vosges, une balade nature à vélo. Notre point de départ, c'est le lac de Gérardmer, une immense étendue d'eau de plus d'une centaine d'hectares, entourée de belles montagnes. Elle surplombe le lac, couverte de sapins, et le sapin, c'est l'arbre des Vosges. Ce lac, il envoie du bois, comme on dit ici. Dès qu'il y a un peu de vent, il se réveille et ça remue dans tous les sens. La lumière le fait changer souvent, et du coup, moi, je ne me lasse jamais de le contempler. Je précise que le lac de Gérardmer est à 700 mètres d'altitude, et les montagnes au-dessus culminent à plus de 1000 mètres. Tout ça pour dire que lorsque je viens ici, je me couvre. Il fait toujours plus frais qu'en plaine, même en été. Et puis même si je viens faire du vélo, je prévois toujours des chaussures confortables pour marcher. Si vous souhaitez louer des vélos, adressez-vous à l'Office du Tourisme, ils ont l'habitude. La boucle que moi je vous propose de faire consiste à aller au col de la Schlourte. Elle fait 32 km aller-retour et présente un dénivelé de 400 mètres. Vous pouvez le faire avec un vélo classique ou électrique. Moi je préfère la version tranquille électrique. Pour commencer, faites le tour du lac. Ça se fait en une demi-heure, une heure max, et ça vaut vraiment la peine. Gardez toujours le lac à votre droite. Arrivé quasiment au bout du lac, suivez le panneau qui indique la tour de Mérel. Prenez le chemin pentu et gravissez les marches de cette tour qui est un observatoire. Elle offre une vue complète sur le lac et la ville de Gérardmer. Si vous voyez pas mal de pédalos en été, c'est normal, c'est ici au 19e siècle que Jean-Antoine Chanoni, à qui il manquait un bras, a inventé la barque à pédales pour se déplacer sur le lac. Repartez ensuite vers Gérardmer en ayant toujours le lac à votre droite et vous terminerez la boucle. Quand on est cycliste et qu'on cherche à se loger par ici, mieux vaut se tourner vers les campings, les chalets de particuliers ou bien les gîtes. Ce sont les formules les plus adaptées quand on a des vélos à garer. Dans les villages autour de Gérardmer, vous pourrez trouver des nuitées à partir de 45 euros la nuit. Mais je vous ai promis de faire une chouette balade à vélo. On y va tout de suite. Objectif, la Schlourte. Depuis l'église de Gérardmer, on prend direction Colmar, on passe à Xonrue-Longemer et comme les voitures, on suit les panneaux qui indiquent la route des crêtes. Et c'est parti pour une heure et demie en roulant bien. Voilà au col de la Schlourte, tout pile entre l'Alsace et la Lorraine, à 1139 mètres d'altitude. Dans ce hameau, on trouve un parking, des bâtiments, dont quelques restaurants. Accrochez votre vélo au niveau du lieu nommé le Grand Tétras et grimpez jusqu'à l'étonnante chapelle triangulaire Notre-Dame-des-Chaumes. De là, on domine le paysage. On est parfois au-dessus des nuages et le regard porte loin. Devant cette chapelle Notre-Dame-des-Chaumes, on peut bien sûr contempler les forêts à perte de vue. Mais comme j'aime l'histoire, je n'oublie jamais qu'ici se trouvait un poste frontière entre la France et l'Allemagne. Cela remonte au temps où l'Alsace et la Moselle étaient allemandes, c'est-à-dire entre 1871 et 1918. Bon, maintenant il faut que je vous dise quelque chose. Comme c'est un bel endroit, il peut y avoir beaucoup de monde. Pour la voir rien que pour moi, je pars très tôt le matin. En plus, c'est la bonne heure pour apercevoir des animaux. Il m'est arrivé de voir des cerfs, par exemple. En octobre, on les entend de loin, puisque c'est le moment du brame du cerf. C'est leur période de reproduction. Les montagnes résonnent de cris graves et longs, et je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet.
X12.
Le col de la Chlourte est sur le territoire de la plus haute commune des Vosges, mais aussi un tout petit village, le Valtin, 74 habitants. C'est là qu'a grandi et que vit le chef cuisinier Philippe Laruelle. Son papa a été maire de la commune pendant 41 ans. On lui doit en grande partie l'aménagement du site.
Mon papa, il est décédé, il était encore maire, avec le projet depuis toujours de réhabiliter la Chlourte, parce que la Chlourte, c'est un haut lieu de passage touristique. Et il n'y avait quasiment rien. On arrivait des fois tard le soir avec un petit peu de brouillard. On ne savait plus où était la route, si on était sur le parking, sur la route. Il n'y avait pas d'accueil pour les touristes, en fait. Et donc, mon père a voulu vraiment habiliter ce lieu. Maintenant, c'est un vrai lieu d'accueil touristique.
Sur ce site, vous pourrez pique-niquer ou même aller déjeuner ou dîner dans l'une des auberges qui sont sur place. Au beau jour ou le week-end, il y a souvent un petit marché. Vous pourrez notamment déguster des bonbons des Vosges. Il y a plein de parfums différents, mais le top, c'est à l'huile essentielle de sapin. Ça fait du bien à la gorge. Avant de réenfourcher votre vélo, vous allez marcher un peu. Comme ça, on se dégourdit les pattes. Suivez le panneau « Sentier des Roches ». Ce sentier serpente à travers les arbres et les rochers. C'est un trajet mouvementé, mais ça vaut le coup parce qu'au bout de la promenade, il y a une impressionnante dégringolade de rochers vers le vide. Et devant vous, des montagnes encore plus hautes à perte de vue. Le Sentier des Roches, il est à flanc de montagne. Vous serez souvent au-dessus des sapins et même au-dessus du vide. C'est l'occasion de prendre des photos frissons. Mais restez prudent, vous serez haut perché. Ensuite, de retour à la Chlourte, récupérez votre vélo et prenez la D417 direction Gérardmer pour redescendre. On attaque la partie retour de notre boucle. Vérifiez bien vos freins, ça descend beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'il y a deux ateliers de réparation de vélos à Gérardmer. En cas de besoin, cherchez les cycles Picard et le vélo Géromois. Sur la route, moi je fais toujours une escale à la Roche du Diable. Une sorte d'arche taillée à la pioche dans le grès rose des Vosges, il y a plus de 150 ans, pour faire passer la route à travers le roc. Elle n'est pas large, cette route, et elle est partagée entre les vélos, les voitures, les motos, les piétons. Soyez toujours attentifs. Le point de vue est extraordinaire et on voit deux lacs. Le plus petit, tout rond, c'est Retournemer. L'autre, c'est Longemer, et c'est logique, puisque c'est le plus long.
C'est vraiment un lac glaciaire, hein, puisqu'il est entouré de montagnes, hein, il y a les montagnes de chaque côté. Mais surtout, vous avez tout autour un sentier de promenade, et des pelouses et des campings sympathiques pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous baigner, pour pouvoir jouer avec les enfants. Nous, les Vosgiens, on ne le dit pas trop, hein, pour ne pas avoir trop de monde, mais on préfère le lac de Longemer.
Je vous avais promis de vous dire ce que sont les brimbelles. Les brimbelles, ce sont les myrtilles. C'est comme ça que les Vosgiens les appellent depuis toujours.
Ça pousse sur les brimbelliers. C'est la petite myrtille sauvage. C'est le fruit emblématique du massif des Vosges. Alors on les ramasse à la main, bien sûr, c'est réglementé. Hein. On n'a pas le droit à plus de 2 litres par personne et par jour. Ça se compte en litres. On les ramasse, mais alors les souvenirs, quand j'étais petit, alors on en ramassait beaucoup, mais on n'en ramenait pas beaucoup parce qu'on les mangeait directement sur l'arbre.
Le mieux, c'est de laisser les myrtilles où elles sont. Si tout le monde les ramasse, il n'y en aura plus. Et puis franchement, laissez faire les gens d'ici. Ils vous les cuisineront comme personne. Si vous avez encore un peu de temps, je vous propose une étape gourmande. Pour y parvenir depuis la Roche du Diable, vous tapez chemin de la Mexelle sur votre GPS. Quelques petits virages, toujours autant de sapins, Et vous voilà à la ferme auberge de la Mexelle, à 2 km au-dessus de Gérardmer. Son vélo dans la cour de la ferme auberge de la Mexelle. Il n'y a pas plus vosgien comme endroit. À l'intérieur, beaucoup de bois, des poutres apparentes, des photos de famille aussi, puisque c'est là que vit Brigitte Voirin. Brigitte est joyeuse dans la vie, généreuse dans les assiettes. J'y retrouve ce qui me donne toujours envie de revenir dans les Vosges, la gourmandise. Il y a les incontournables, comme la salade vosgienne. Un peu de salade, ça peut être du pissenlit, des croûtons de pain, quelques œufs durs ou pochés, des pommes de terre cuites, une grosse cuillère de crème et surtout beaucoup de lardons. Ça se mange avant de déguster un autre plat très spécial, les tofailles. Je vous souhaite de découvrir le moment où Brigitte soulève le couvercle. Le rouge vous vient aux joues. Vous avez de la buée sur les lunettes.
Donc, on cuit à l'étouffée, c'est pour ça que l'on appelle ce plat les tofailles. Alors, il y a du sindou, il y a du lard, il y a des oignons, il y a du sel, du poivre, après voilà, et des pommes de terre, bien sûr. Il faut simplement laisser le temps de que ça compote. Ça réchauffe un peu le corps et les cœurs.
Quand vous aurez le ventre bien rempli, reprenez les vélos, rejoignez le lac de Gérardmer. Le meilleur moment, c'est le soir. Le soleil se couche alors entre deux montagnes. Il donne des couleurs incroyables à l'eau du lac qui prend des teintes rose, rouge, orange. C'est magnifique. Mais ça, vous en profiterez quand vous viendrez.
Ici. Vous écoutez ici.
Cause I'm a
Vous écoutez ici.
C'est 100%.
100% chansons françaises.
Salut, ici, c'est Jeanne Gabriel. Je suis heureuse de vous faire écouter mon dernier single, Bijoux.
Un coup de cœur ici.
Ça faisait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. Tes larmes sont passées, tes bouches se sont connues. As-tu apprivoisé, as-tu charmé des corps, il les as-tu aimés? Oui, les as-tu aimés, comme on s'aimait alors? La bouche que j'ai touchée ne te ressemblait pas, elle n'avait pas ton goût. Mais je les ai goûtées, parfois même aimées. Et les avoir aimées, les avoir écorchées ne veut pas dire enfin que le goût de ce bijou ne sera plus le mien. Passe, ton ombre reste là. Mon corps se relève alors qu'on passe les oiseaux. Je ne manque de rien sauf peut-être de toi. Comme éclipsé, tu vois. Tu peux bien embrasser les rêves que je vois. La bouche que j'ai touchée ne te ressemblait pas. Elle n'avait pas ton goût. Mais je les ai goûtées.
Les conseils, les bons plans, à tout moment.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
La Margeride, c'est l'un des nombreux pays d'Auvergne. Un ensemble géologique situé entre les monts du Cantal et l'Aubrac. Vous connaissez peut-être ce massif grâce à Saint-Flour, la porte sud du territoire. Et vous en avez peut-être l'image d'une ville un peu grise, un peu austère. Mais moi, j'ai envie de vous montrer que ce territoire est multiple et surtout qu'il est vivant. On y sent les éléments se déchaîner. C'est du feu d'un volcan que ce massif est apparu il y a des millions d'années. Ici aussi, le vent souffle, l'eau se faufile et la nature est partout. Et à la fin de cet épisode, vous découvrirez pourquoi la Margeride regorge d'ours. Je m'appelle Christophe Noiseux. Je suis animateur à Ici Pays d'Auvergne et j'adore la Margeride. Quelle que soit la saison, elle figure parmi mes destinations préférées. Au printemps et en été, j'adore observer les prairies se parer de milliers de fleurs. En automne, je m'y rends pour les champignons et les coudes du brame du cerf. En hiver, la neige lui donne une ambiance de terre secrète aux mille légendes. La pète du Gévaudan est passée par là. Bienvenue d'en partir. En Margeride, balade entre terre, eau, feu et air. Notre point de départ, c'est la ville de Saint-Flour, dans le sud du Cantal, aux portes de la Margeride. Elle figure régulièrement parmi les villes-étapes du Tour de France. C'est d'ailleurs ici que Richard Virenque a remporté une victoire historique le 14 juillet 2004, après une course folle de plus de 230 km. Cette cité médiévale, avec ses remparts et ses portes fortifiées, se voit de loin. Elle est située à près de 900 mètres d'altitude, sur un éperon rocheux, un promontoire volcanique. Alors ici, le vent souffle fort, très fort. D'ailleurs, on surnomme la ville la cité du vent. Tant que j'y pense, mon premier conseil est d'aborder la ville à pied par le chemin des chèvres. Il est accessible depuis la ville basse de Saint-Flour. Il mène progressivement vers la ville haute. Ce chemin longe l'Andère, la rivière qui méandre au pied des remparts. N'ayez pas peur des 330 marches qui mènent progressivement vers les hauteurs de Saint-Flour. Prenez votre temps et faites des haltes pour observer le patrimoine de la cité et la nature proche de la ville. Les belles vues se succèdent progressivement. En arrivant sur les hauteurs de Saint-Flour, on tombe forcément sur la cathédrale Saint-Pierre. Elle domine la ville et même l'Europe. Elle est située à près de 1000 mètres, ce qui en fait la plus haute du continent en altitude. Si on observe la tour nord de la cathédrale, on peut aussi y découvrir un trésor. À l'intérieur sèchent une soixantaine de Florus solatium. Ce sont des jambons qui bénéficient des courants d'air de la tour et qui s'affinent ainsi en quelques mois. Ces jambons d'exception se retrouvent sur les plus grandes tables gastronomiques de France. Ils sont même servis à l'Élysée. Si vous souhaitez goûter ce produit d'exception, sachez que chaque été, l'association des Amis de la cathédrale de Saint-Flour tient un stand au pied de l'édifice. Sur ce stand, vous pourrez acheter le miel de la cathédrale, oui, il y a aussi des ruches, et le fameux jambon. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les locaux qui vous donneront de bonnes idées de balade et de découverte dans et autour de Saint-Flour. Ah oui, si vous êtes à Saint-Flour un samedi matin, allez faire un tour au marché. Il s'installe dans les rues de la ville. L'ambiance est sympa et on peut y acheter des produits très variés. Fruits et légumes locaux, miels et confitures, tisanes et huiles essentielles, viande de cale et fromages. Et parmi ces fromages, prenez le temps de découvrir et de goûter l'artisou. On l'appelle aussi le fromage aux artisans. Pour vous expliquer, il s'agit d'une tome fermière affinée grâce à l'action de petits acariens. Et ça lui donne un goût unique. Si vous avez de bons yeux, vous verrez les petites bêtes courir sur la croûte. Dit comme ça, ça n'est pas très ragoûtant, mais je vous assure, c'est très bon. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir la margeride à travers les quatre éléments. Après l'air et le feu, place à la terre, car la margeride, c'est d'abord une nature riche et des paysages variés. On va aller découvrir un jardin. Direction le village de Ruine-en-Margeride. C'est à un quart d'heure de route en voiture. Donc à Ruine-en-Margeride, ou plus précisément dans le jardin de Saint-Martin au cœur du village. Il fait partie de l'écomusée de la Margeride. Il a été créé en 1985 et c'est un jardin extraordinaire, composé surtout de plantes culinaires, aromatiques et médicinales. Le jardin de Saint-Martin est vaste. Il présente une reconstitution des milieux naturels et agricoles de la région. Il joue aussi un rôle important pour la préservation des variétés fruitières, potagères et aromatiques du coin. On les découvre à travers des animations adaptées à tous les publics. Et j'ai un autre conseil. Si vous voulez découvrir la vie passée des femmes et des hommes dans la Margeride côté Cantal, je vous propose de visiter les deux autres sites de l'écomusée de la Margeride. Allez faire un tour à l'école de Clémence Fontille pour vous plonger dans l'ambiance du début du XXe siècle au hameau de Signalose. Et allez voir la ferme de Pierre Allègre. C'est une ferme traditionnelle cantalienne située au village de Loubarès. C'est ouvert du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Mais revenons au jardin de Saint-Martin. Ce que j'aime ici, c'est que c'est un lieu paisible. Ici, on prend son temps. On délaisse sa montre. J'adore me laisser guider par les lieux et la vie qui s'y épanouit. On peut observer des insectes butineurs, abeilles et papillons, des petits lézards et de nombreux oiseaux. Laurent Occelli vit à Ruine-en-Margeride. Il est botaniste et guide au jardin. C'est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur les plantes sauvages et les plantes cultivées.
Le jardin est constitué de plusieurs associations végétales, alors typiques de la Margeride. Il y a la petite mare, la hêtraie sapinière, la pinède à pin sylvestre. Il y a une zone de rocailles, de landagenais, de prairies naturelles. Et il y a aussi une roseraie avec des murets de pierres sèches.
Au sein du jardin, on trouve une tour médiévale en pierre. Elle fait partie intégrante des lieux. C'est dans cette tour qu'a vécu Louis de Saint-Martin, ancien garde républicain, amoureux des roses. C'est pour lui rendre hommage que son nom a été attribué au jardin.
L'endroit que j'apprécie le plus dans le jardin de Saint-Martin, eh bien, c'est Saint-Marc, puisqu'il y a toute une vie aquatique qui est apparue. Donc des insectes, des grenouilles, on a une petite couleuvre à collier qui de temps en temps vient nous rendre visite. Et puis évidemment, une végétation aquatique, semi-aquatique, et puis des lieux humides. On a de la reine des prés, on a de la bistorte, on a du trèfle d'eau. On a voilà tout un tas d'espèces intéressantes.
Avant que j'oublie, profitez de votre présence au jardin pour effectuer une visite dans la petite boutique située à l'entrée. Là, on découvre des produits locaux d'artisans ou agriculteurs de la Margeride. Je vous conseille les confitures de rosiers sauvages, de myrtilles, et oui, on est dans le pays de la myrtille, les jus de pommes, de poire ou les sirops. Moi, j'adore celui à la menthe sauvage. Vous trouverez aussi des idées de découverte, car la boutique propose de nombreuses brochures, dépliants et guides des sites touristiques du coin. Si on poursuit notre chemin dans la cour intérieure du jardin de Saint-Martin, on découvre la grande diversité des plantes aromatiques et potagères. Des plantes qui font appel à nos sens. On peut les toucher, les sentir et parfois les goûter à l'occasion d'animations thématiques proposées en été. On fait aussi la connaissance d'un riche panel de plantes médicinales. On peut observer aussi les plantes tinctoriales utilisées quant à elles pour colorer les tissus.
J'ai une plante fétiche, c'est l'ortie. L'ortie, c'est vraiment la plante médicinale et la plante potagère par excellence, parce qu'à laquelle on fait plein de choses, y compris pour le jardinier écolo, pour la biodiversité. C'est vraiment une plante indispensable et à préserver.
Après toutes ces découvertes, faites comme moi. Allongez-vous sur l'une des chaises longues disposées au pied du marronnier de la cour intérieure. Faites corps avec la terre. Et offrez-vous ainsi un moment contemplatif de détente et de repos. Ah oui, vous vous souvenez qu'au début de cet épisode, je vous disais que la Margeride regorgeait d'ours. Eh bien justement, c'est à Ruinant-Margeride que vous les découvrirez. Des ours inoffensifs qui feront le bonheur des enfants et des adultes. Je vous propose de pousser les portes d'un autre musée étonnant baptisé Un Monde en Pluche. Il est situé à l'entrée de Ruinant-Margeride en venant de Saint-Flour. C'est le paradis des jouets. Au-delà des pluches, Jacques Tessier, le créateur du musée, présente une collection de jouets pour filles et garçons du début du XXe siècle à nos jours. C'est le fruit de décennies de Chine et de brocante. Une collection étonnante à découvrir en été et pendant les vacances scolaires. Pour découvrir au mieux la Margeride, je vous recommande de vous munir de la carte IGN de ce territoire. C'est essentiel pour s'y promener en toute quiétude. Même si les chemins balisés y sont nombreux, on ne sait jamais. La beauté des paysages peut parfois nous perdre. J'ai encore un conseil à vous donner. Si vous avez opté pour un long séjour, je vous invite à découvrir le circuit de moyenne randonnée, 10 km au total, qui part du village de Loubarès à deux pas de Ruinant-Margeride. Ce circuit permet de réaliser une boucle en passant par le village de Chalier. Le long des rives de la Truyère, on emprunte un chemin et plusieurs passerelles. Comptez 5 heures de balade en immersion dans la nature. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va continuer notre balade dans la Margeride à travers le dernier des quatre éléments, l'eau. Je vous propose une virée en voiture ou à moto à la découverte des gorges de la Truyère et de deux monuments remarquables. Pour y aller depuis Ruinant-Margeride, il faut 10 minutes de route via la départementale 13. On est maintenant au début de la vallée de la Truyère pour une balade en voiture de deux bonnes heures à la découverte des gorges creusées par l'eau. Cette rivière prend sa source en Lozère, serpente sur près de 200 km en traversant le Cantal puis l'Aveyron avant de se jeter dans le Lot. Dans ces gorges, l'eau est donc partout. Au fil de la route, on s'arrête à différents belvédères. Les vues sont panoramiques et on découvre la rivière sous plusieurs aspects. On alterne entre fonds de gorge et plateaux. Il surplombe les lacs créés par plusieurs barrages. On en prend plein les yeux. Au fait, en plus des barrages, le génie de l'homme a donné naissance à un monument aujourd'hui candidat à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le viaduc de Garabit. Vous le verrez aussi sous plusieurs angles en longeant la route des gorges de la Truyère. Il a été conçu par les ateliers Eiffel et construit à la fin du 19e siècle. Le viaduc a été achevé 3 ans avant la fameuse Tour de Paris et il a la même couleur d'origine que la Dame de Fer, le rouge Eiffel. Il a même servi de décor à un film inachevé, L'Enfer, d'Henri-Georges Clouzot. Ce viaduc ferroviaire fait près de 600 mètres de long. Il est situé à 122 mètres au-dessus de la rivière. À l'époque, il permettait de relier Béziers à Neussargues en passant par Millau sur la ligne d'Écosse. Aujourd'hui, les trains sont rares, mais le monument, lui, n'a pas perdu de sa superbe.
En effet, moi, du coup, je suis du coin, donc j'ai toujours connu. Même étant petit et tout, je venais me baigner juste en dessous. Et c'est vrai que quand on a ce beau viaduc, ça fait toujours quelque chose. Puis il y a sa couleur. Et même une fois, j'ai eu l'expérience de passer en train dessus. Et c'est assez impressionnant. C'est bien qu'il fasse partie de ce paysage au milieu du Cantal.
Avant de quitter la Margeride, je vous recommande d'aller faire un tour au château médiéval d'Alleuze. C'est un site en ruine, mais en accès libre. On peut facilement en faire le tour. Il a été le décor naturel d'un monument du cinéma français, la Grande Vadrouille, avec entre autres Bourville et De Funès. Alleuze y apparaît après la course-poursuite entre un camion conduit par une bonne sœur et des motards de l'armée allemande qui auront du mal à éviter des kilos de citrouilles. Vous voyez la scène ? Eh oui ! L'Auvergne, c'est aussi un grand plateau de tournage, et pas seulement un grand plateau de fromage. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Ici.
J'ai mal, maman a tort, j'ai la vie.
connecté avec vous.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
La Côte d'Opale, c'est une côte sauvage qui s'étend sur 138 km de la frontière belge jusqu'au début de la Somme. Ça nous évoque le sable fin, les dunes ondulantes et les falaises majestueuses. Mais moi, j'ai envie de vous faire découvrir les deux merveilles naturelles de cette côte. Deux balcons sur la Manche, les deux caps, le Blanc-Nez et le Gris-Nez. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi on récupère de l'eau de mer au pied de l'un de ces caps. Je m'appelle Emmanuel Bordeaux, je suis animateur à Issy-Nord. Et j'adore le site des deux caps parce que c'est un endroit où tout est vrai. Le vent, la mer, la lumière. J'aime ce lieu parce qu'il me fait du bien. Il me reconnecte avec la nature. J'aime le cap Blanc-Nez, ses falaises de craie blanche, sa vue plongeante sur la Manche. J'aime le Gris-Nez, plus bas, plus rocailleux, mais tout aussi puissant. Bienvenue dans Partir, la Côte d'Opale, entre les deux caps. Notre point de départ, ce sont les falaises de craie blanche du cap Blanc-Nez. Elles sont situées à 20 minutes en voiture de Calais et 30 minutes de Boulogne-sur-Mer. Nous sommes à 134 mètres au-dessus de la mer, avec une vue imprenable sur le détroit du Pas-de-Calais. En face de nous, par beau temps, on voit les falaises blanches de Douvres en Angleterre. Sur la gauche, il y a des grandes étendues de sable blanc, le village de Wissant et au fond le cap Gris-Nez, où je vous emmènerai plus tard. Ici, ce n'est pas qu'une belle vue. C'est l'un des endroits les plus fréquentés du monde par les navires. Ferries, cargos, chalutiers, on parle de près de 500 bateaux par jour. C'est un quart de la navigation mondiale qui passe par là. Avant de poursuivre la balade, un petit point pratique. Le cap Blanc-Nez, ça se mérite un peu. Pas de panique, c'est très accessible. Il y a deux parkings à votre disposition. Le premier tout près des belvédères, mais attention, c'est pas accessible au camping-car. Il y en a un second, un peu plus bas, qui accueille tout type de véhicules. Il vous faut alors une dizaine de minutes de marche, avec une montée assez franche vers les falaises, rien d'extrême, mais prévoyez de bonnes chaussures. Une fois en haut de la falaise, le paysage semble paisible, avec un large horizon qui s'ouvre sur la mer. Mais si l'on regarde côté terre, on devine les cicatrices du passé. Il y a ces vieux blocos allemands sur les flancs de la falaise. Ils ont été réaménagés pour accueillir des chauves-souris. Et puis des trous d'obus, vestiges des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les impacts ont projeté de la craie et ça a formé des micro-habitats où se développe une flore particulière. On trouve notamment des orchidées qui fleurissent du printemps jusqu'au cœur de l'été. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le paysage qui vous entoure, j'ai un autre conseil. À seulement 10 minutes en voiture du cap Blanc-Nez, vous avez la maison du site des deux caps. C'est un espace d'accueil et d'information ouvert tous les jours, toute l'année. À l'intérieur, on découvre des vidéos, des maquettes, des expositions sur la géologie, la faune, la flore. On trouve aussi des conseils de balade, des itinéraires, on peut louer des vélos, et puis c'est un bon refuge en cas de pluie. Juste à côté, la boutique Cap Nature propose un large choix de produits régionaux. Tous 100% made in Côte d'Opale. Je vous recommande le carré des deux caps. C'est un fromage au lait cru de vache, affiné à la bière et délicatement parsemé d'orties séchées. Et tant qu'à faire, repartez aussi avec quelques bouteilles de la brasserie des deux caps. Avec modération bien sûr. Leur bière Belle Dalle mérite vraiment le détour. Elle est brassée avec de l'orge cultivée sur la propriété même. Un vrai circuit court, du champ à la chope. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon lieu préféré, le Cap Gris-Nez. Cette falaise basse, rocheuse, battue par les vents, le point de France le plus proche de l'Angleterre. C'est à 12 km de là à vol d'oiseau, mais on met 25 minutes en voiture pour y arriver. On est donc au Cap Grinet. Ici, les falaises sont plus basses qu'au Blanc-Nez. Et surtout, elles sont grises. Même les jours calmes, la mer y est toujours en mouvement. Au sommet, il y a un phare. Autour, une lande sauvage battue par les vents. C'est un lieu vivant, entre terre, ciel et mer. Avant d'explorer le Cap Grinet, quelques conseils. Mettez de bonnes chaussures de marche. Les sentiers peuvent être glissants, surtout après la pluie. Prévoyez un coupe-vent. Le temps change vite et le vent est souvent bien présent. Et n'oubliez pas non plus la protection solaire. Je vous le dis d'expérience, le soleil tape fort, même par temps frais. Et surtout, restez bien sur les sentiers balisés pour préserver la nature si fragile à cet endroit. Alors peut-être que vous êtes venu en voiture jusqu'au Cap Grinet. Mais si vous en avez la possibilité, je vous conseille de faire la rando depuis le Cap Blanc-Nez. C'est une super balade entre falaises, pâtures, criques et grands horizons. Vous emprunterez le GR120, il est très bien balisé. Vous comptez environ 3 heures de marche tranquille. Et attention, certains tronçons du GR passent par la plage. Ils sont donc inaccessibles à marée haute. Pensez à bien vérifier les horaires de marée avant de partir. Et pour le retour, pas besoin de refaire tout le chemin à pied. Il y a un bus qui vous ramène au Blanc-Nez en environ 40 minutes pour 1 euro. Grinet, ce n'est pas une falaise impressionnante par sa hauteur, mais parce qu'elle dégage. Une sensation d'être au bord du monde. J'adore ce mélange de roches, de sel et de ciel immense. J'aime le bruit du vent mêlé à celui des vagues. Mais ce que j'aime le plus, ce sont les oiseaux. Ils sont partout. Les goélands qui planent dans le vent, les fulmars qui rasent la surface de l'eau, les sternes qui plongent sans prévenir pour pêcher, et le faucon pèlerin qui traverse l'espace comme une flèche. Caroline Génaud est guide nature sur le site des Deux Caps.
Quand on est sur le Grinet, on sent vraiment, on l'entend, la mer, on la sent aussi, hein, le côté iodé, mais il y a aussi la proximité très forte de la campagne. Les champs se jettent dans la mer, et c'est ça que j'aime bien. Moi, je viens quasiment tous les jours ici, et qui est complètement intact, c'est l'effet waouh. Je le dis à chaque fois. Ça change aussi au fil des saisons. Alors pour le printemps et l'automne, c'est les saisons intermédiaires que je préfère, vraiment, parce qu'il y a ici beaucoup d'oiseaux. Sinon, l'hiver, c'est génial. Les couchers de soleil ici, l'hiver, au ras de l'eau comme ça, à l'horizon, c'est fabuleux. Le ciel devient orange, devient rose, métallique.
En partant à pied depuis le haut du Cap Grinet, il suffit d'emprunter le chemin des douaniers. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, on découvre un petit trésor, la plage de la Sirène. Un coin discret, presque caché. Mais on peut aussi y accéder directement en voiture par la rue de la plage, depuis le village d'Audingan. Ici, le paysage, c'est une étendue mêlant sable fin et galets polis par la mer. Il y a une vue magnifique sur la baie de Ouissant, et c'est l'endroit idéal pour voir au loin le majestueux Cap Blanc-Nez. C'est aussi un spot recherché par les surfeurs. Les vagues peuvent atteindre 1,50 m quand le vent souffle de terre.
Alors, il n'y aura pas de créature hein, avec des écailles, une belle poitrine et tout le bazar. Hein. La sirène, ça fait référence aux douaniers, justement. Il y en a qui restaient au Grinet, il y en a qui descendaient, qui remontaient de l'autre côté de la butte avec une petite lumière. Et quand les douaniers du Grinet voyaient plus les copains avec la lumière, ils déclenchaient la corne de brume. Et c'est la sirène. J'ai cassé un mythe, là. Hein.
C'est sur cette plage que l'on trouve le restaurant du même nom, la sirène. Avec un cadre exceptionnel et une vue incroyable sur la mer. Je vous conseille de réserver car l'endroit est très prisé. Dans l'assiette, on a du poisson fraîchement pêché, des coquilles Saint-Jacques, et moi, quand c'est la saison, j'adore prendre du homard ou des moules de bouchot. D'ailleurs, les moules, on peut aussi en récolter soi-même sur la plage si c'est la saison, de la fin du printemps à la fin de l'été.
Donc, quand on est sur la plage, en camarée basse, c'est bien l'idéal pour aller cueillir quelques moules sauvages. Donc, en respectant bien 4 cm minimum de taille, pas plus de 5 kg. Et on respecte aussi, à marée basse, les moules de bouchot. Les bouchots, c'est les pieux sur lesquels un mytiliculteur élève des moules. Donc là, c'est son job. Donc, on ne va pas les cueillir. Il les cueille, il les récolte. Et on ira les déguster dans les restos. Hein.
C'est sur cette plage de la Sirène que l'on peut aussi attraper des couteaux. C'est un coquillage long et fin qu'on trouve dans le sable. Et pour y arriver, il y a une astuce simple et généralement efficace. Il suffit de repérer un petit trou en forme de 8 sur le sable, on dépose une pincée de gros sel dessus, on attend quelques secondes, et là le couteau remonte à la surface doucement. Quand Quand il est sorti aux deux tiers, on le tire à la base lentement sans le casser. Cuit rapidement à la poêle avec du beurre et de l'ail, c'est un délice. Ah, au juste, vous l'avez dit en début d'épisode que l'on captait de l'eau de mer au pied d'un des caps. Eh bien, c'est ici, sur la plage de la Sirène. Le producteur Xavier Elsmortel vient en tracteur pomper l'eau de mer, car à cet endroit précisément, elle est réputée pour sa pureté exceptionnelle. Cette eau est ensuite transportée vers sa ferme, située aux Attaques, c'est près de Calais. Il la fait alors évaporer dans des bassins spécialement conçus pour produire de la fleur de sel. Et c'est le seul endroit où l'on produit du sel dans les Hauts-de-France. Tant que j'y pense, sur la plage de la Sirène, le dernier week-end du mois d'août, il y a le Festicap. C'est une fête tournée vers la mer, les traditions maritimes et le patrimoine local. On peut y voir défiler des flobards, ces bateaux traditionnels du Boulonnais. Il y a aussi des jeux de piste pour petits et grands. Et puis côté papilles, il y a le choix. On peut déguster du homard grillé, de la soupe marine et d'autres spécialités locales, les pieds dans le sable. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va marcher dans l'eau à Ouissan, certainement le plus beau village de la Côte d'Opale. C'est à 15 minutes en voiture d'ici. On est donc au bout de la rue des Flobards, à Ouissan, juste en face de la mer, avec les membres de l'association Longe-Côte des Deux-Caps. On se prépare pour une marche sportive aquatique, plutôt réservée aux adultes, qu'on appelle donc le Longe-Côte. D'abord, on enfile la combinaison, indispensable pour rester au chaud, dans une eau qui dépasse rarement les 18 degrés. Et puis ça sert aussi un peu à couper le vent du large. Ensuite, on enfile des bottes en néoprène, histoire de ne pas se faire mal sur les galets ou les coquillages, en marchant dans l'eau. Et puis, une fois qu'on est tous prêts, on se lance. On rentre dans la mer, ensemble, en ligne, avec de l'eau jusqu'à la poitrine. On sent tout de suite la résistance de l'eau. Chaque pas est un petit effort, mais les bras aident à garder l'équilibre. Le groupe avance à rythme régulier et se relaie comme des cyclistes passant de la tête à la queue. On reste bien ensemble. Le Longe-Côte, c'est un sport collectif. Au fait, le Longe-Côte, c'est aussi un sport local, bien de chez nous. Il a été inventé en 2005 par Thomas Wallin, un entraîneur d'aviron de Dunkerque. Comme ces rameurs ne pouvaient pas toujours s'entraîner sur l'eau à cause de la météo, il les a fait pagayer en marchant dans l'eau. C'était une façon d'augmenter leur résistance et de solliciter davantage le haut de leur corps.
Alors moi, ce que j'adore dans ce sport, c'est la déconnexion. On sort du travail et on vient se relaxer dans l'eau avec la nature, l'environnement, la mer, l'air frais.
Ce qu'on n'imagine pas, c'est vraiment un sport. Hein. C'est de la cardio pure. Mais c'est dans l'eau, donc ça fait moins mal, ça fait pas mal aux articulations. Autres. On peut le faire au rythme qu'on veut, on peut se mettre devant, c'est, on fait des relais comme au vélo. C'est du sport sympathique.
Avant de quitter la Côte d'Opale, je vous recommande d'aller faire un saut dans un endroit un peu à l'écart, mais super beau, le Mont de Couple. Il est situé à 7 km dans les terres depuis Ouissan, sur la commune d'Audenbert. C'est une petite colline qui ne paye pas de mine, mais c'est l'un des seuls endroits où l'on peut vraiment avoir une vue panoramique sur les deux caps, la mer et l'intérieur des terres. Comptez environ 500 mètres de montée un peu raide jusqu'à la table d'orientation, mais ça vaut le coup. Car il y a souvent peu de monde et c'est le spot idéal pour pique-niquer ou prendre de magnifiques photos. Mais ça, vous le verrez quand vous viendrez.
Ici. C'est. Vous écoutez ici.
Always on the run, finding out looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Sure, the inside of me, you'll know my baby, and you were always patient.
Chanson française.
Salut, ici c'est Marine. Je suis heureuse de vous faire écouter mon dernier single, Reste d'averse.
Un coup de cœur ici.
Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout va bien. Tout est encore aussi noir. J'ai pourtant forcé mon phare, mais même mes joues n'y voient plus rien. Oui, là j'aperçois des larmes. Tous mes pinceaux de stars, seuls savent que je pleure comme toutes les autres. Oui, j'ai même vu tous mes drames couler sur mon teint blafard, mais je sais que ce sera tout. Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout, tout va bien.